Afrique, mémoire d'un continent. Avec Elgas.
L'Afrique par elle-même et dans les courants du monde nous guide encore aujourd'hui pour un autre voyage dans l'histoire du continent. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un retour sur une page importante de l'histoire récente de la République démocratique du Congo, avec par exemple ses terres connues. Et ça donne envie de danser. Nous sommes le 30 juin 1960. Après de hautes luttes menées notamment par Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu ou encore Moïse Nchombé, ce vaste territoire si riche en matières premières et longtemps sous domination belge accède à l'indépendance. C'est l'euphorie au rythme frénétique des notes d'indépendance tcha-tcha qui résonnent dans ce qui s'appelle alors Léopoldville, actuel Kinshasa. Euphorie de courte durée, l'unité se fissure, le Katanga fait sécession sous la houlette de Moïse Tshombe et d'un carteron de séparatistes. Région riche, capitale du cuivre par exemple, cette sécession est bénie par les Belges, chassés par la porte et qui reviennent ainsi un peu par la province. Ils instrumentalisent la sécession en cours et tiennent ainsi une occasion royale de maintenir leur grappin sur leur ancienne colonie. Le Katanga suscite ainsi les convoitises et surprises. Qui rentre dans la danse? La France. Ses officines les plus secrètes, faites de mercenaires, d'anciens d'Algérie, d'officiels, arment et soutiennent le Katanga contre l'ONU, devenu ennemi de circonstance. C'est le début d'une vertigineuse histoire d'espionnage, de réseaux opaques, de guerres, dans ce qui se présenterait presque comme le berceau opérationnel de la France-Afrique. Ce feuilleton politique digne d'une série noire nous est raconté aujourd'hui par le journaliste français Morin Picard. Morin Picard, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous y connaissez un blind test?
Pas du tout.
On y va. Est-ce que vous reconnaissez ces paroles?
Pas du tout.
Il s'agit de la Katangaise.
Bien sûr.
Écoutez, vous allez nous en parler longuement aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez traversé l'Atlantique pour venir nous voir. On en est ravis. Vous êtes journaliste et auteur d'essais historiques et vous venez de publier Katanga, la guerre oubliée de la France-Afrique contre l'ONU aux éditions Perrin. Un livre fruit d'une remarquable enquête, je dois le dire, où l'on rencontre toute cette officine de la France-Afrique au chevet d'un projet sécessionniste. L'épisode, pour les initiés, est connu, mais vous accédez aux coulisses, aux correspondances et aux notes secrètes et dressez les portraits de ce qu'on a appelé les affreux. Parlons d'abord de contexte, cher Morin Picard. Comment s'opère la rupture avec le Congo belge? Quel est le contexte de cette décolonisation?
Bien, tout commence évidemment à la déclaration officielle de l'indépendance de l'ex-Congo belge le 30 juin 1960. Le départ des Belges est précipité. Il y a une insurrection, une mutinerie au sein de l'armée congolaise qui refuse de continuer à être commandée par des officiers supérieurs belges. Et très vite, la situation dégénère. Aux quatre coins du pays, il y a des émeutes. Les Blancs sont obligés de plier bagages. C'est la fuite éperdue vers l'aéroport de Léopoldville pour rentrer en Belgique. Et il y a une province où un calme relatif se maintient, c'est le Katanga, parce que là, la présence coloniale belge est encore très forte, via une entreprise qui s'appelle l'Union Minière du Haut-Katanga. Les intérêts financiers sont énormes. Vous avez parlé évidemment des intérêts de la Belgique, mais en fait, c'est un conglomérat anglo-belge. Il y a beaucoup d'intérêts britanniques, anglo-saxons au Katanga. Il est hors de question de laisser la chienlit, pour parler comme De Gaulle, prendre le pouvoir au Katanga. Et donc, cette oasis de stabilité va donner des idées aux dirigeants katangais qui y pensaient évidemment depuis quelque temps, et il déclare la sécession du Congo quelques jours plus tard, le 11 juillet, en appelant l'Occident à venir à son aide face au chaos du Congo.
Et cette déclaration se fait par la voix de Moïse Tshombe.
Notre position est ferme, comme je l'ai encore dit il y a 3 jours. Nous maintenons absolument l'indépendance du Katanga. D'ailleurs, c'est la seule façon, n'est-ce pas, de sauver ce qui reste à sauver dans le reste du Congo. Si tout le monde, si les Occidentaux comprenaient, n'est-ce pas, ce que nous avons, ce que nous voulons, nous autres, les Katangais, je crois qu'ils pourront sauver le reste du Congo.
Et au milieu du chaos donc, cette province choisit le choix très très fort et risqué de la sécession. On est en juillet 1960, un mois après l'indépendance. Et le Katanga donc décide de faire cavalier seul. Son nouvel homme fort, on vient de l'entendre, s'appelle Moïse Tshombe. Rappelons, vous l'avez déjà dit d'ailleurs, que la raison est très très riche. Elle suscite beaucoup de convoitises et se retrouve vite au cœur d'une bataille d'influence de grande puissance internationale. On parle de la Belgique, donc vous l'avez aussi mentionné, de l'Angleterre, mais de la France. Vous racontez les tractations qui se nouent en France. Comment s'établissent les premiers contacts avec les mercenaires français? Est-ce que ces balais reçoivent l'assentiment officiel de Paris?
C'est une histoire tortueuse, compliquée. Initialement, rien n'est donné, rien n'est certain du côté de Paris. Il y a eu une vague tentative au printemps 1960, pendant les négociations d'indépendance, de faire passer le message de Paris à Bruxelles que si on se rapportait aux clauses du traité qui avait donné le Congo à la Belgique, eh bien la France possédait une sorte de droit de préemption pour le cas où la Belgique viendrait à se retirer de son joyau colonial. Et évidemment, la diplomatie belge a réagi à l'époque avec beaucoup d'hostilité en se demandant quelle mouche avait piqué les Français. Donc cette initiative diplomatique a fait long feu, mais assez rapidement, les Français vont se rendre compte qu'ils peuvent peut-être tirer leur épingle du jeu et qu'il y aurait peut-être moyen de profiter du chaos général pour mordre dans le gâteau congolais.
Comment cela va se faire? Parce qu'il y a toute une nébuleuse qui va commencer à se déployer. Est-ce qu'on a peut-être une idée de la chronologie, de comment ça va commencer à se mettre en place? Quels sont les premiers hommes, par exemple, qu'il faut apparaître comme les acteurs centraux de ces tractations?
C'est quelqu'un de très méconnu, c'est le numéro 2 de Jacques Faucard à Paris. Jacques Faucard est alors le secrétaire aux affaires africaines et malgaches, le bras droit clandestin du général de Gaulle à côté du palais de l'Élysée. Et Jacques Faucard a un adjoint qui s'appelle Jean Morichaud-Beaupré. Et Jean Morichaud-Beaupré, gaulliste de la première heure, outré de la désagrégation progressive de l'empire colonial français, voit effectivement cette opportunité se profiler dans l'ancien Congo belge. Et dès juillet 1960, il se rend compte que, le Katanga est un oasis de stabilité dans un pays peut-être en proie à l'émiettement, où Moscou va peut-être s'implanter comme il a tenté de s'implanter dans d'autres pays africains. Et 2, l'immixtion de l'ONU qui a été réclamée par Patrice Lumumba, le premier ministre congolais, qui a appelé à l'aide l'ONU. Eh bien, à l'époque, il faut se souvenir que la France est en porte-à-faux avec l'ONU. Le général de Gaulle considère que l'Organisation des Nations Unies n'a strictement rien à faire dans toutes les affaires de décolonisation. Et donc, par ricochet, si jamais l'ONU intervient à l'aide du Congo et qu'elle est acquise aux intérêts afro-asiatiques, communistes, c'est ce que pensent les Français, eh bien, il faudrait peut-être intervenir très rapidement et faire d'une pierre deux coups, s'implanter au Congo et damer le pion aux Nations Unies.
Un premier nom et tout de suite une galaxie qui va commencer à se déployer. Morin Picard, vous avez plongé dans les archives et on découvre des profils militaires, disons-le, très très inquiétants qui vont commencer à nouer des partenariats avec le pouvoir katangais. Fait notoire, plusieurs d'entre eux sont des anciens d'Algérie, en mal de fait d'armes, en mal d'estime, nostalgique ou tout simplement mercenaire. Je vous propose qu'on parle de quelques profils centraux. Deux Roger, par exemple, Roger Folk et Roger Trinquier. Quel est leur rôle dans la mission de formation de l'armée katangaise?
Roger Trinquier est le premier contacté par des partenaires de Moïse Tshombe. Trinquier a une réputation hors norme à l'époque. Il vient de sortir un livre sur la contre-insurrection. C'est un ancien des maquis anti-Viet Minh en Indochine. Il a gagné presque à lui tout seul la bataille d'Alger en 1957 face aux artificiers du FLN. Il est paré d'une aura un petit peu surréaliste. Toutes les armées occidentales l'apprécient énormément. Il sera d'ailleurs sollicité par les Américains ultérieurement. C'est un expert de la lutte anti-insurrectionnelle. Et donc, le Katanga le veut. Et donc, en janvier 1961, le Katanga offre un pont d'or à Roger Trinquier, officiellement pour former la petite armée katangaise, mais officieusement pour en prendre la tête. Et ça, ça va très mal passer avec les conseillers belges de Moïse Tshombe.
Donc, Folk et Trinquier commencent donc ce ballet impressionnant. Et il y a énormément de mercenaires qui commencent maintenant à avoir un intérêt particulier pour le Katanga. Est-ce qu'il y a uniquement une affaire de gros sous ou est-ce qu'il y a d'une certaine manière aussi le soutien officieux de Paris?
Initialement, Paris, par la voix de Pierre Messmer, ministre des Armées, donne un feu vert discret, c'est ce qu'on appelle un feu vert feu orange, à Roger Trinquier et sa petite équipe d'officiers. Il a feu vert pour en recruter une centaine. Ça n'atteindra jamais un tel niveau, mais il a le feu vert. Par contre, c'est à ses risques et périls. C'est-à-dire, s'il se passe quelque chose, comme dans les bons films d'espionnage, on dira que la capitale n'ira avoir eu connaissance de ses agissements. Trinquier s'y rend, ça va être un petit peu compliqué, mais autour de lui, il commence par constituer un groupe d'élite de quelques officiers qu'il connaît très bien, qui sont soit encore basés en Algérie, soit qui viennent de rentrer en France. Et tous ces gens ont un point commun, ils n'apprécient pas du tout De Gaulle et ils sont surtout très partisans de l'Algérie française.
Afrique, mémoire d'un continent.
Je reçois aujourd'hui Morin Picard, journaliste et auteur d'une passionnante enquête sur cette guerre secrète que la France-Afrique a menée contre l'ONU au Katanga. Reprenons un peu de fil. Une province riche en matières premières, une sécession appuyée par les Belges et autour de laquelle le manège affairiste de la France-Afrique se déploie. La perspective de se doter d'une armée bien formée et au cœur des ambitions de l'équipe de Moïse Tshombe et de ses amis, la France officielle ou officieuse est donc un allié de taille. En pleine quête de soutien et de légitimité diplomatique, le Katanga navigue dans l'incertitude sous-régionale. Mais un fait vient dérégler la machine et l'optimisme des dirigeants d'alors, c'est l'assassinat de Patrice Lumumba le 17 janvier 1961. Morin Picard, vous consacrez de très belles pages à cette séquence. La mort de Lumumba affecte-t-elle ou impacte-t-elle les ambitions sécessionnistes du Katanga ?
C'est une énorme erreur, une bourde de la part des dirigeants katangais qui se laissent... On pourrait le dire aujourd'hui, c'est difficile, puisqu'il y a beaucoup de détails qui nous échappent, malgré une longue enquête côté belge, de comprendre ce qui s'est passé exactement. Mais il est probable que la haine contre Lumumba et contre ses alliés a tout dépassé, a fait oublier un petit peu le projet qu'ils avaient d'asseoir une forme de satellite pro-occidental au cœur du territoire du Congo. Et ils ont eu cette opportunité d'assassiner leur ennemi. Et cet assassinat va démolir la réputation, réputation naissante du Katanga, alors que c'était une petite province sécessionniste qui méritait d'être soutenue par Paris, Londres, Washington, etc. Du jour au lendemain, les Katangais deviennent quasiment infréquentables et ça va compliquer très largement les affaires de la France qui était en train de se rapprocher petit à petit.
On a parlé d'hommes, parlons maintenant de matériel. Et il y a un élément important, ce sont des avions qu'on appelle des Fougas Magistères français qui se retrouvent, cher Morin Picard, avion de combat à Elisabethville. Et comme ça, dans une allure très très secrète. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment des avions peuvent se retrouver à Elisabethville sans qu'on s'en rende compte ?
C'est une histoire ténébreuse, puisque beaucoup de fausses informations circulent depuis plus de 60 ans sur ces fameux Fougas Magistères. C'est une question très embarrassante pour la société Potez Aviation, qui existe toujours à côté de Toulouse. Comment le meilleur avion d'entraînement occidental en pleine guerre froide, le Fougas Magistère, a-t-il pu se retrouver dans cette province sécessionniste exactement au moment où tombe la nouvelle de l'assassinat de Patrice Lumumba ? C'était difficile de faire pire publicité pour le soutien officieux de la France au Katanga. Et c'est un officier, un agent de la CIA qui est en poste à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, qui se promenant sur l'aéroport ce soir-là pour une affaire probablement très secrète, voit sortir d'un gros porteur étant arrivé directement en droite ligne du Luxembourg, trois grosses caisses dont sortent des jets Fougas Magistères démontés. Et il en rend compte immédiatement à Washington, ce qui prouve que les Américains non plus n'étaient pas au courant.
J'imagine qu'il faut quand même des compétences techniques pour piloter ces appareils. Comment vont se faire aussi les recrutements, justement, des potentiels pilotes ? Est-ce qu'on recrute en France ou y a-t-il d'autres acteurs, d'autres nationalités qui entrent aussi en jeu ?
Alors, mon enquête m'a permis de déceler la présence d'une équipe de techniciens et pilotes envoyés directement par la firme Potez Aviation. Il est encore aujourd'hui très difficile de savoir de qui il s'agissait, mais j'ai les noms.
Allons-y.
Eh bien, c'était des pilotes d'essai de Potez, des gens assez connus. Il y avait André Littolf qui était un pilote d'essai connu. Son frère faisait partie de l'escadrille Normandie-Niemen pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a aussi un dénommé Paul Dubois, dont j'ai localisé la présence à Bordeaux à l'époque. Mais ça ne va pas plus loin. Les archives sont fermées. La société ne collabore pas. Et surtout, elle nie toute implication directe avec cette transaction, alors que des télégrammes diplomatiques français révèlent même la somme qui a été payée rubis sur l'ongle par la province du Katanga à la société Potez Aviation, avec probablement en arrière-plan le feu vert donné par le gouvernement français.
On verra au gré de l'émission comment justement ces appareils vont être décisifs ou non dans cette guerre qui va se profiler. Mais un autre épisode est sur le point de mettre à mal l'ambition séparatiste du Katanga. Et j'aimerais pour le coup qu'on prenne le temps un peu de l'expliquer en détail. C'est l'arrestation de Moïse Tshombe. Pourquoi est-il arrêté et qui participe à sa libération? Parce que les tractations vont au-delà du Katanga et sont une affaire continentale, si je puis dire.
Le Katanga de Moïse Tshombe au tout début de l'année 1961 et se croit tellement puissant par rapport au chaos général du Congo, de Joseph Kasavubu et du général Mobutu, qu'il propose une solution confédérale à l'ensemble du pays. L'idée serait d'offrir la possibilité à toutes les provinces du Nouveau Congo d'avoir une forme d'autonomie très avancée, calquée sur ce séparatisme katangais. On accepterait un cadre fédéral dans le giron duquel le Katanga accepterait de revenir, mais chaque province aurait des prérogatives très soutenues, sauf peut-être la défense, etc. Et tout ça a été négocié lors d'une première conférence à Tananarive quelques semaines auparavant, et Moïse Tshombe revient pour une deuxième conférence à Coquillatville au Congo, et tout d'un coup il découvre que ses propositions sont jugées inacceptables, et lorsqu'il décide de quitter cette conférence en claquant la porte, eh bien des policiers l'attendent à l'aéroport, et il est mis en prison comme un vulgaire délinquant.
Il est libéré comment après cet épisode de prison? Et qui sont les acteurs qui vont jouer un rôle important pour sa libération?
Alors encore une fois, on ne sait pas tout, mais on sait que les négociations vont avoir lieu à Milan, qu'une très coquette somme d'argent va être dépensée par le Katanga et ses bailleurs belges, probablement d'une banque genevoise, qui permet la libération de Moïse Tshombe, j'allais dire triomphale, mais c'est pas triomphale du tout, c'est une sortie en catimini d'une prison de Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Moïse Tshombe sort de prison très affaibli, il a attrapé un début de pneumonie en prison, il est très mal en point, et surtout, il est devenu très fébrile, très nerveux, très inquiet, il a vraiment cru qu'il allait être exécuté en guise de vengeance pour la mort de Patrice Lumumba quelques mois auparavant. Il est vivant, c'est l'essentiel, mais il revient dans sa province très amoindri et très inquiet de la suite des événements.
On a parlé des soutiens belges, des soutiens français. Est-ce qu'il y a eu des soutiens aussi africains dans ce qu'on a appelé très abusivement la communauté française? Est-ce qu'il y a eu des soutiens affirmés à l'aventure sécessionniste du Katanga en Afrique?
Oui, le soutien immédiat, le plus proche géographiquement, c'est le Congo-Brazzaville de l'abbé président Fulbert Youlou, qui est lui-même un relais de la politique française dans cette ancienne Afrique occidentale française. Fulbert Youlou joue un rôle essentiel, ne serait-ce que parce que Brazzaville, évidemment, se trouve de l'autre côté du fleuve par rapport à Léopoldville, Kinshasa, et qu'il y a des vols directs entre Brazzaville et Elisabethville. Et tout ça est très pratique pour le transport d'hommes et de matériel à destination de la province katangaise.
J'ai envie de dire, et les populations dans tout ça, est-ce qu'elles sont partie prenante justement de l'épisode qui se joue, ou c'est uniquement au sommet des chambres secrètes que les décisions se prennent?
C'est très intéressant, très difficile évidemment aujourd'hui d'en parler, mais on voit tout l'appareil de propagande qui se met en place à l'époque. Vous avez commencé l'émission avec la katangaise, directement inspirée de la marseillaise. La propagande de l'État séparatiste katangais joue évidemment bien sûr d'une fibre patriotique, pas forcément évidente aujourd'hui à déceler, mais il dit que tous les habitants du Katanga, évidemment, se battent bec et ongles pour préserver leur indépendance par rapport aux agressions externes du Congo, alors que bien évidemment, les Katangais sont des Congolais.
En un an, de 1960 à 1961, l'ambition du Katanga de former un État viable, malgré les péripéties, prend forme. Avec le soutien de la France, les prémices d'une armée sont bien présentes et l'étonnant balai des personnages obscurs continue avec des cachets, des avances, des retours. Si les soupçons des troupes de l'ONU étaient bien réels, ils gagnent en vigueur. Se profile alors l'immanquable confrontation, la guerre, la guérilla, avec plusieurs agendas chez les protagonistes. La déflagration est donc, elle, inéluctable. Je vous propose ici de marquer une petite pause pour parcourir les informations dans le monde. On se retrouve juste après sur RFI pour continuer à parler du Katanga.
Afrique, mémoire d'un continent. Avec Elgas.
Je suis en compagnie de Morin Picard, journaliste, auteur de Katanga, la guerre oubliée de la France-Afrique contre l'ONU aux éditions Perrin. Il nous raconte l'histoire de cette guerre entre la France-Afrique et l'ONU au Katanga, province sécessionniste sous la houlette de Moïse Ntshombe. On a commencé un peu à en parler à l'été 1961. La tension, elle monte d'un cran. L'ONU débusque le manège des mercenaires et commence donc la traque. Craignant un embrasement imminent de la situation depuis les savanes qui sont investies. Morin Picard, vous indiquez que 273 de ces mercenaires sont capturés par les forces de l'organisation internationale. Et la situation est d'autant plus explosive. On va donc directement à la confrontation. Est-ce que l'ONU redoute des attentats du type de l'OAS, l'Organisation de l'Armée Secrète ?
Oui, la présence d'officiers mercenaires français parmi ces mercenaires de toutes origines inquiète énormément l'ONU parce que depuis deux mois, à peu près trois mois, depuis juin 1961, le service de renseignement militaire de l'ONU, dirigé par des officiers scandinaves, a décelé la présence, l'arrivée d'une douzaine d'officiers jugés dangereux. C'est la dénomination officielle dans les télégraphes diplomatiques que j'ai pu exhumer aux archives de l'ONU. Ce sont des officiers d'élite faisant partie des unités de légionnaires et de parachutistes en Algérie, qui sont des spécialistes de la contre-insurrection, qui ont affronté le Viet Minh et le FLN, qui sont donc considérés beaucoup plus dangereux que le commun des mercenaires belges ou sud-africains, qui sont plutôt des gens qui viennent là pour l'argent, pour les filles et pour l'alcool, alors que les Français ont un vernis idéologique. Ils sont là pour autre chose. Et l'ONU se méfie énormément de cette autre chose, commence à déceler des signes, des prémices avant-coureurs d'une série d'attentats qui pourraient être perpétrés contre les troupes de l'ONU, contre les casques bleus qui sont déjà présents en nombre au Katanga.
Il y a un autre élément souterrain, un peu en toile de fond, c'est une bataille aussi idéologique, parce que les forces de l'ONU sont aussi des forces afro-asiatiques. Il y a la question aussi du communisme, il y a déjà les esquisses en fait des blocs qui se forment avec, pour une fois, les États-Unis qui ne sont pas dans le camp de la France. Est-ce que vous pouvez revenir aussi sur cet ensemble d'éléments très très importants qui sont de nature purement politique ?
Oui, c'est vraiment l'image que l'ONU projette en France, dans la France du général de Gaulle à l'époque. Comme vous le dites, l'ONU est considérée comme tenue par les puissances afro-asiatiques qui sont nouvellement en position de supériorité numérique aux Nations Unies puisque des dizaines de pays sont apparus depuis la fin des années 50.
Les Indiens, par exemple.
Avec quelques poids lourds, il y a les Indiens, il y a l'Éthiopie qui est en train aussi de s'affirmer sur le continent africain et donc à la tribune de l'ONU à New York. Et pour les officiers français directement arrivés d'Algérie, la présence de ces casques bleus éthiopiens, indiens, tunisiens, les Tunisiens, quelle insulte pour les Français, puisque la Tunisie faisait encore partie de l'Empire colonial français quelques années auparavant, c'est quelque chose d'absolument inacceptable et c'est la preuve finalement que c'est la grande lutte globale, mondiale contre l'ennemi communiste qui est engagé. Ici même au Katanga.
Oui. Est-ce que cette réalité-là, qui est très très importante en termes de politique, elle va aussi avoir un impact direct dans ce qui va être une guerre qui va arriver très très rapidement ? Est-ce qu'il y a de ça dans les revendications et dans les discours qui peuvent être tenus aussi par les soldats des casques bleus ?
Les Français pensent qu'il faut frapper très vite et très dur contre les casques bleus, surtout contre leurs dirigeants. Et donc les attentats vont viser, en théorie, les dirigeants de l'ONU au Katanga. Et on pense qu'en coupant la tête, eh ben le corps va être obligé de partir tout seul et que les casques bleus vont battre en retraite.
Si la tambouille politique est... ce qu'elle est, le Congo se désagrège politiquement, ou en tout cas est dans une période d'instabilité. En musique, les années 60 marquent le début de l'envol de la rumba congolaise, avec ici Joseph Kabasele.
Kanja s'accompagne.
Africa.
Joseph Kabasele, leader vocal de l'éternel African Jazz Mokili Mondimba. La guerre arrive. L'ONU lance l'offensive le 13 septembre 1961. L'opération s'appelle Mortor. Parlons donc de cette offensive et de la guérilla qu'elle va déclencher, cher Morin Picard. L'offensive paraît très en faveur des forces de l'ONU et pourtant, les forces katangaises résistent grâce aux hommes de Roger Fulks et à ses conseils et à sa direction. Au final, l'opération est un fiasco. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette offensive et cette résistance des éléments mercenaires français?
Oui, 15 jours avant Mortor, il y a eu une première opération qui s'appelait opération Rum Punch. Et cette opération avait permis d'arrêter, comme vous l'avez dit, 273 mercenaires. Mais parmi ces 273, il n'y a quasiment aucun Français. Donc l'ONU réalise, même si elle a attrapé quelqu'un qu'on apprendra à connaître plus tard du nom de Bob Denard, eh bien, elle a raté. Dans les mailles de son filet, elle a raté les mercenaires français de Roger Fulks. Et les officiers de l'ONU savent consciemment que ce sont les gros poissons et qu'ils n'ont pas attrapé les bonnes personnes. Donc les Français ont pris le maquis au sein du Katanga, et donc l'affaire n'est pas terminée. Et là-dessus se greffe un autre élément, c'est qu'un jour, une jeune fille au visage tuméfié se présente au QG des Nations Unies à Elisabethville. Elle dit qu'elle est la maîtresse d'un officier français qui l'a roué de coups et qu'elle s'est enfuie avant d'être tuée et qu'elle avoue aux gens des Nations Unies qu'un projet d'attentat est en cours et que tous les dirigeants de l'ONU vont être assassinés incessamment sous peu, qu'il y a des groupes de tueurs qui sont en cours de mise en place. Donc l'ONU doit agir très vite. Et donc l'opération va être bâclée. Parce que parmi ces milliers de casques bleus qui sont mobilisés pour prendre la main dans le sac tous les dirigeants katangais et les mercenaires, eh ben, y a très peu d'unités combattantes, en fait. Et certains ne savent même pas trop se battre, c'est difficile à avouer, mais les Irlandais, les Suédois sont pas du tout là pour se battre. Les Indiens sont d'excellents soldats, les Dogras. Mais hormis les Dogras, eh ben, y a pas assez de monde, y a pas assez de moyens lourds, etc. Et donc, quand ils investissent les rues d'Elisabethville le 13 au matin, l'affaire a fuité. Les mercenaires de Roger Fulks ont constitué des groupes mobiles, très mobiles, qui sautent de jardin en jardin avec des mitrailleuses et des bazookas. Et les colonnes de casques bleus tombent dans des embuscades nombreuses et vont très vite devoir refluer en laissant des hommes sur le terrain et en perdant des prisonniers aussi, puisque les Français, dans un rapport de 1 à 10, parviennent à faire prisonnières deux unités entières d'Irlandais.
Et tout se complique. Malgré deux offensives, donc, l'ONU ne met pas fin à la sécession. Un cessez-le-feu est signé le 20 septembre 1961. Il semble bien fragile, car chaque camp est à l'affût pour faire régner ses projets et attendre son heure. En pleine période d'expectative et d'incertitude, Moïse Sombé se rend à Paris. C'est un épisode qui est un épisode presque ironique. Cher Morin Picard, quel est le sens de cette visite? Comment Paris arrive-t-il encore à souffler le chaud et le froid, à s'impliquer sans l'assumer?
Quelle question difficile. Pourquoi Moïse Tshombe est-il allé à Paris en novembre 1961? Les soutiens financiers de Moïse Tshombe se trouvent à Genève. Donc il se rend à Genève. Il a un banquier dans sa poche. Et ce banquier, il en a besoin parce que le Katanga s'est rendu compte, tout en ayant gagné la bataille, la première bataille d'Elisabethville, que ça va être très difficile de tenir tête sur le long terme face aux troupes de l'ONU, dont les renforts sont en train d'arriver, et pas n'importe quel renfort. On oublie les Irlandais, on oublie les Suédois, ce sont des unités de combat aguerries de soldats népalais et indiens, et ça sera une toute autre affaire, en plus avec un soutien aérien des avions de combat, ce sera une toute autre affaire. Et donc il faut d'urgence acheter du matériel, faire venir des renforts et surtout sécuriser le soutien de Paris. Mais à Paris, on commence un petit peu à tanguer parce qu'on se rend compte que les hommes de Roger Fulks ont peut-être poussé le bouchon un peu trop loin.
Est-ce que d'ailleurs cette position est tenable? Faisons un focus sur le rôle officiel des autorités françaises parce que vous l'avez bien expliqué, ils ne s'impliquent pas, ils ne se mouillent pas, ils laissent grosso modo la pègre militaire s'en charger. Mais quelle est la position officielle de Paris? Parce que la crise commence à avoir une dimension très très importante et la guerre a éclaté. Comment Paris s'en sort?
Je pense que c'est le moment de parler des réseaux Focard. Les réseaux Focard signifient, comme on le disait tout à l'heure, qu'il y a un feu vert, feu orange. Donc, pas vu, pas pris, pendu. Donc les officiers mercenaires français sont partis en connaissance de cause. On leur a par exemple conseillé de signer une retraite en bonne et due forme de l'armée française. Comme ça, on n'ira pas dire que ce sont des officiers d'active. Et à l'Élysée, puisqu'on parle du palais, le général de Gaulle ne va jamais signer un document. Il a dit, tout le monde s'en souvient d'une réunion, il est bien ce Moïse Tshombe, que peut-on faire pour l'aider? Mais jamais il va signer une déclaration de soutien au Katanga. Donc carte blanche est laissée à son bras droit, Jacques Faucard, et au numéro 2 de celui-ci, Jean-Maurice Chaubeaupré. Tout passe par Brazzaville et on va lui envoyer des hommes, si on peut. On va lui envoyer du matériel, beaucoup, grâce à nos amis marchands d'armes qui sont dans le giron de Paris. Et puis on va voir si on peut continuer à soutenir la sécession. On a envoyé un diplomate qui a rang de consul officiel, Joseph Rambroschini, qui est une sorte de consul de choc de la diplomatie française, qui a déjà été dans des coins difficiles et qui se retrouvera d'ailleurs au Vietnam un peu plus tard. Et si d'aventure le Katanga parvenait à se maintenir, à maintenir son existence, eh bien ce consul se transformerait en ambassadeur. Et la France serait le premier pays à reconnaître l'indépendance du Katanga. Mais pour l'instant, on est en novembre 1961. Le Katanga a gagné la première bataille contre les casques bleus. Une deuxième se profile à l'horizon. Et cette fois-ci, c'est très difficile. Que fait Paris? Il observe, il laisse venir et il prend soin de ne pas trop se mouiller.
Autre aspect de l'escalade entre la France et l'ONU, la France mobilise toute son armada impériale et à l'aide de ses anciennes colonies, elle met à mal l'organisation internationale en refusant par exemple l'accès à l'espace aérien. La crise atteint une autre dimension qui signe véritablement une forme de rupture. Pouvez-vous revenir sur l'ampleur de cette crise et les soutiens katangais de cette communauté française?
Il faut se plonger dans les archives de Jacques Faucard, le fonds Faucard qui se trouve à Pierrefitte, au nord de Paris, qui sont partiellement déclassifiés, pour découvrir des documents relatifs à Houphouët-Boigny, qui est en contact direct avec Jacques Faucard. Et on se rend compte de l'influence de Houphouët-Boigny à l'Élysée. Tout ce qu'il dit est vraiment pris au pied de la lettre et considéré comme extrêmement avisé par le général de Gaulle et ses conseillers. Et Houphouët-Boigny recommande de créer une force d'interposition, on dirait aujourd'hui force d'interposition, de soldats africains issus de pays francophiles et voilà, amis directs de Paris, pour faire un contre-pied aux troupes des Nations Unies qui sont, elles, afro-asiatiques et donc communistes, je cite.
Afrique, mémoire d'un continent.
Cher Morin Picard, les forces françaises commencent à quitter le Katanga vers 1962. Vous écrivez que cette guerre était aventurière, que les Français savaient que le projet était plus ou moins condamné. Qu'est-ce qui précipite ce départ?
La première bataille d'Elisabethville qu'on vient d'évoquer a clairement été gagnée par une poignée d'hommes, les groupes mobiles de Roger Folk, qui étaient toutes cornaquées par une poignée d'officiers et de sous-officiers français et de gendarmes paracommandos katangais qui suivaient leurs supérieurs français. Quand la bataille est gagnée, quand le brouillard de la guerre s'estompe, le pouvoir katangais revendique très vite la victoire et met de côté les officiers français. C'est une victoire des Katangais. C'est une victoire de la nation katangaise face à l'agresseur extérieur afro-asiatique communiste. Les Français ne sont pas mentionnés. C'est un premier incident où Roger Folk, officier légendaire de l'armée française, qu'il vit très mal. Dans un deuxième temps, quand la deuxième bataille d'Elisabethville éclate en 1961 et que celle-là est perdue par le pouvoir katangais, qui est obligé de baisser pavillon face aux troupes des Nations Unies, Roger Folk a fait une proposition à Moïse Tshombe. Il lui a proposé de faire Stalingrad. Un peu comme les Russes face aux Allemands en 1941, on va reculer. On va leur laisser le terrain, mais on va laisser la terre brûler derrière eux. Et on va se cacher dans le maquis, dans le bush katangais. Et là, on aura une meilleure chance de détruire les colonnes blindées de l'ONU en rase campagne. Donc faisons Stalingrad, partons, laissons la terre brûler derrière nous, détruisons l'ONU où et quand nous le jugerons nécessaire. Et ça, Moïse Tshombe refuse, parce qu'à Elisabethville, il y a les installations de l'Union minière et il est hors de question de laisser détruire le magot sur lequel le pouvoir katangais est assis.
Malgré justement cette forme de ténacité, l'aventure sécessionniste, elle s'achève pour de bon en 1963. Mais il reste des nostalgiques. Dans votre riche enquête, cher Morin Ficard, on ne manque pas de souligner un absent assez notable, je dois le dire. C'est finalement le peuple katangais, s'il existe d'ailleurs, ses envies, ses projets, ses résistances, sa réaction éventuelle à ces batailles d'influence. Quels étaient les désirs des populations? L'indépendance était-elle un horizon désiré et vaillamment poursuivi par les katangais?
C'est tellement difficile à dire si longtemps plus tard, si longtemps après. Ce qui est certain, c'est que quand on observe aujourd'hui, qu'on analyse les instruments de la propagande katangaise à l'époque, la radio Katanga, par exemple, elle est tenue par des mercenaires français. Ce sont eux qui appellent aux armes les populations. Il y a le ministre de l'Intérieur, un personnage nommé Godefroy Munango, qui lui intervient, qui essaye lui aussi de mobiliser les populations. Et on se rend compte que les vraies allégeances, les vrais nationalismes, on dirait aujourd'hui, ce sont les tribus du Katanga. Il y a les Baluba et les autres. Et les Baluba sont évidemment en piète au-delà des autres provinces, ils ne sont pas au nord du Katanga. Et les Baluba sont plutôt pro-Léopoldville, pro-Kinshasa, alors que les autres tribus sont plutôt rattachées à Godefroy Munango et au pouvoir katangais d'Elisabethville. Donc les populations sont divisées et elles ont surtout l'impression d'être entraînées malgré elles dans une querelle qui est justifiée par les intérêts miniers belges et anglais.
Je ne suis pas arbitre, mais en tout cas, ce qui fait la grande richesse de votre livre et un mot de conclusion, c'est qu'il vient apporter un élément nouveau pour la connaissance, justement, de... Est-ce que vous prévoyez des séjours, par exemple, au Congo pour parler de votre livre ?
J'espère que l'occasion m'en sera donnée. Je crois qu'il y a un intérêt pour cette histoire méconnue par les Congolais eux-mêmes. Je l'entends souvent. Les livres ne sont pas forcément bien distribués. Il y a beaucoup de gens qui ignorent, on me l'a déjà dit, l'histoire de leur propre province, du pays. En outre, c'est probablement une histoire qui n'était pas très connue non plus en Occident, en Belgique ou en France. Il y avait vraiment quelque chose à raconter et il fallait vraiment fouiller ces archives secrètes qui sont déclassifiées goutte par goutte. Vraiment, on commence seulement à savoir ce qui s'est passé il y a 60 ans et c'est ça qui rend cette histoire très intéressante.
Aux amoureux d'histoire et de littérature, c'est un très beau récit. Merci infiniment, cher Morin Picard, pour vos éclairages. Je rappelle donc le titre de votre livre, Katanga, la guerre secrète de la France-Afrique contre l'ONU. C'est aux éditions Perrin. L'histoire se répète toujours deux fois, a-t-on coutume de dire. La première fois en tragédie, la seconde fois en farce. Et il arrive souvent, hélas, que la farce devienne tragique. Dans le sillage des indépendances africaines, plusieurs tentations sécessionnistes sont venues fragiliser de jeunes ensembles portés par l'euphorie de la libération, créant les conditions de guerre civile chronique, de lutte acharnée pour les matières premières. Avec l'ombre toujours prédatrice de puissance ou de firme internationale. Le Katanga semble à ce titre un berceau originel, le théâtre premier des appétits antagonistes qui tiennent en otage et les ressources et les populations. Merci à Morin Picard pour son récit, nécessaire pour contrecarrer la tentation de l'oubli, afin de contrer dans le même élan cette éclipse tenace qui jette encore son ombre sur une histoire africaine qu'on continue ici à explorer pour mieux se l'approprier. C'est la fin d'Afrique Mémoire d'un continent. Vous retrouvez l'émission, bien sûr, en podcast sur le site RFI.fr et sur l'application RFI Pure Radio. Merci à toute mon équipe, Delphine Michaud à la coordination, Taguim Fatraoré à la réalisation. Et vous retrouverez la semaine prochaine Penaï Traoré.